On est mardi, ce qui veut dire qu'on retrouve Pierre. Salut Pierre.
Salut.
Comment tu vas ?
Ça va très bien, toujours.
Alors, on te retrouve tous les mardis pour un nouvel épisode de Partager l'architecture, écriture croisée. Et quel est le programme du jour ?
Eh bien, aujourd'hui, c'est un entretien avec Blandine Dubois, qui est la documentaliste de la médiathèque de l'École d'architecture de Bordeaux.
Et pourquoi tu as décidé d'aller à la rencontre d'une documentaliste, justement ?
Eh bien, une documentaliste, donc elle est responsable de la médiathèque de Bordeaux, donc c'est la médiathèque d'architecture et de paysage de Bordeaux, ce qui est important, puisqu'elle, les médiathèques, c'est vraiment très important dans les facultés en France et de manière générale, et aussi à l'école d'archi, puisque ça permet d'avoir accès à plein de contenus, et notamment du contenu écrit, ce qui nous intéresse dans cette émission radio, et du contenu écrit à la fois en termes de livres, mais aussi après on va avoir accès à des vidéos, à des DVD, chose qui n'est plus complètement utilisée. Et ce qu'elle nous explique bien tout le long de l'entretien, c'est vraiment ce devoir de transmettre, donc de sensibilisation au final, des étudiants en architecture à l'architecture. Et c'est surtout en fait le fait que l'architecture, ça parle de tout, et c'est un peu ce devoir d'universalisme, elle appelle ça comme ça, puisqu'en fait dans cette médiathèque on va avoir à la fois des livres parlant de la philo, des livres sur des détails techniques et constructifs, de la sociologie, de l'art, il y a vraiment de tout. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'elle nous explique. Et en parallèle, non seulement on a de tout en termes de bouquins, en termes d'audiovisuel aussi, mais aussi elle fait vraiment tenir tout le côté de l'actualité et tous les débats qui peuvent animer l'architecture aujourd'hui.
Et quel type de débat anime l'architecture justement ? Est-ce que vous parlez d'écologie, de politique, de démocratie peut-être ?
Eh bien justement, il y a beaucoup de débats. Donc forcément, l'écologie et le changement climatique, c'est la base, puisque l'architecture est grandement responsable aussi du changement climatique. Le secteur du bâtiment, c'est énorme en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de plein de questions, dont des questions de démocratie, effectivement. Des questions de démocratie parce que aujourd'hui on le voit en ce moment avec la réforme des retraites, la démocratie c'est quand même quelque chose dont on parle un petit peu, où justement on est un peu un bout d'une forme de système, mais aussi, ça c'est pour la partie de la gouvernance, mais aussi dans le terme de la conception de nos villes et de nos villages aussi, de nos territoires, puisqu'en fait l'architecture elle est très peu non seulement partagée mais aussi co-décidée, c'est-à-dire qu'on ne décide pas beaucoup, on est très peu en tant que citoyen, on est très peu appelé à participer, à pas forcément dessiner un bâtiment, mais ne serait-ce que décider de qu'est-ce qu'on pourrait en mettre. Et c'est comme ça que aujourd'hui, la médiathèque de Bordeaux et donc Blandine Dubois, sa représentante, essaie d'ouvrir de plus en plus ce débat démocratique de l'architecture, avec notamment la création d'un troisième corps au sein de l'architecture. Donc peut-être que tu as déjà entendu Mélissa parler donc de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage. Est-ce que ça te dit quelque chose ?
Ça me dit quelque chose, mais je ne saurais pas les définir.
Et oui, c'est ça le grand problème. Donc la maîtrise d'ouvrage, très souvent, c'est le client, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va arriver, donc par exemple une personne qui veut refaire sa maison, il va aller voir l'architecte, qui est donc la maîtrise d'œuvre. Donc en tant que maîtrise d'ouvrage, il est client de la maîtrise d'œuvre. Mais le souci, c'est que dans de très nombreux cas, donc là, par exemple, dans le cas de la maison, au final, on a quelqu'un qui crée sa propre maison. Donc lui, après, va utiliser en tant que client, il va utiliser la maison. Mais par exemple, dans un bâtiment public, une mairie qui doit construire une école, puisque c'est les municipalités qui sont responsables de la construction des écoles, le maire et le conseil municipal ne va pas vraiment utiliser l'école. Et donc, on a une maîtrise d'ouvrage qui n'est pas la même que la maîtrise d'usage. Et c'est ce terme-là qui apparaît peu à peu dans le débat architectural actuel, où on essaie de vraiment comprendre et de faire parler la maîtrise d'usage qui, elle, va utiliser le bâtiment et qui, du coup, derrière, après, va pouvoir parler directement avec le maître d'œuvre qui est donc l'architecte. Et on a notamment, avec le dernier épisode qui était celui avec Francine Zarkos, où Francine Zarkos, dans son atelier de projet, donc c'est là où dans les études, on a l'atelier de projet, la matière principale, il y avait des élèves qui, aujourd'hui, ont été diplômés et ont créé une association qui est le bruit de la conversation. Et cette association-là, elle fait de l'accompagnement dans la maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est-à-dire, elle va aider, par exemple, dans le cas d'une école, bon, on peut dire les instituteurs, les institutrices, mais tout aussi les je sais plus le nom, les assistants autour ASH, je crois. Non, je sais plus.
Oui, ASH. Ouais.
Voilà, les ASH aussi à définir quels sont leurs besoins et en fait, ben, où est-ce qu'elles veulent le lavabo dans la pièce, par exemple. Ce genre de choses. Et donc, ben, le bruit de la conversation le fait, par exemple.
Et alors, pour en revenir à la médiathèque, quand on pense à la médiathèque, on pense beaucoup aux livres, mais tu as aussi parlé d'audiovisuel. Quelle est l'importance de l'audiovisuel et peut-être de l'informatique aussi à la médiathèque ?
Eh bien, il est même très important puisqu'ils essaient de vraiment d'ouvrir de plus en plus. On a eu même un partenariat, donc ça c'est pour le... Je fais une petite pub médiathèque pour les étudiants en archi. Il y a même un partenariat maintenant entre le réseau des médiathèques des écoles d'archi avec Arte Campus, j'ai failli dire Radio Campus. Et donc Arte Campus, ben, on a beaucoup de contenu où normalement c'est payant sur Arte et là on n'a même plus besoin du coup de payer puisqu'on est étudiant en archi. Et de manière générale, ce rapport à l'informatique, elle explique qu'en fait ça a presque facilité l'accès à l'information puisque maintenant on n'a pas besoin d'aller demander aux documentalistes et de chercher dans les numéros. Il suffit, on va avoir plein d'informations sur des plateformes, donc ça s'appelle Archires, c'est la plateforme des médiathèques d'écoles d'archi, et tout le côté aussi archivage, c'est-à-dire qu'en fait avant ils stockaient vraiment à un endroit et ça prenait énormément de place tous les papiers de tous les projets de fin d'études et tous les mémoires des élèves, et aujourd'hui bah, du coup c'est en partie dématérialisé, ce qui a permis de faire la place. Et dans ces mémoires-là, il y a une petite, on va dire une forme de pépite, comme elle l'a dit. C'est le PFE, donc le projet de fin d'études d'Anne Lacaton et de Jean-Philippe Vassal. Donc, ce sont deux architectes. Peut-être que tu les connais, Mélissa, ou pas forcément. Non, c'est normal, t'inquiète pas. On ne connaît pas l'architecture.
Et bon, bien, on est là pour ça.
Exactement. Et bien, il se trouve que ces deux-là, Lacaton et Vassal, eh bien, en fait, ils sont Pritzker Prize. Et le Pritzker Prize, c'est l'équivalent du prix Nobel d'architecture. Donc, sont les plus, c'est le, la plus grande distinction internationale en architecture. Et ils viennent de Bordeaux. Ils ont été formés à Bordeaux. Ça, c'est une première chose. Ils sont français aujourd'hui. Ils ont une agence à Montreuil, donc dans la région parisienne. Mais en plus de ça, ils ont aussi fait un projet à Bordeaux. Et c'est grâce à ce projet à Bordeaux qu'ils ont reçu la distinction du Pritzker Prize en 2021.
Et quel est ce projet ?
Eh bien, ce projet, je pense que vous le connaissez tous. C'est ça qui est très bien quand on est sur Bordeaux. Ce sont les tours, enfin les bars, pardon, plutôt du Grand Parc. Je pense que vous voyez. Donc, c'est toute une partie. Eh bien, en fait, ce projet de Grand Parc-là, dans les années 2000, ils devaient le détruire. La municipalité de Bordeaux et après plusieurs organismes, je ne sais pas exactement quel organisme, mais devaient le détruire. Le bailleur social, c'est Aquitanis, qui est un bailleur social qui est public, on va dire, globalement. Eh bien, ils souhaitaient le détruire. Et Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ont proposé un contre-projet. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce projet ou du tout, mais dis ça.
Non, pas du tout.
Forcément, okay. Et donc, ce projet-là, eh bien, l'objectif, c'était de venir en fait, rajouter et ouvrir la façade où c'était que des petites fenêtres, comme on voit très souvent dans les bars et les tours. On avait des petites fenêtres, donc on a ouvert les grandes fenêtres et rajouté une deuxième peau. Donc, c'est-à-dire ajouter, en fait, non seulement une deuxième peau, mais en fait, un espace supplémentaire qui serait sous forme un peu de jardin d'hiver, donc c'est-à-dire tout vitré. Et donc, thermiquement, normalement, on rajoute en fait une couche pour protéger thermiquement le bâtiment. Donc, non seulement c'est positif. Et en plus de ça, ben, en moyenne, les habitants ont gagné 20 mètres carrés. Donc, 20 mètres carrés, je vous laisse imaginer que c'est quand même plutôt sympa au niveau du foncier et dans son appartement. Et donc, de manière générale, ce projet de Lacaton et Vassal, eh bien, la médiathèque, elle a le PFE2 et on voit déjà un petit peu apparaître cette idée de deuxième peau, toute vitrée, elle nous l'explique. Et donc, c'est avec Blandine Dubois, responsable de la médiathèque de l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Je suis avec Blandine Dubois, qui est directrice de la médiathèque de l'ENSAP de Bordeaux. Donc d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu brièvement et qu'est-ce qui vous a mené à vous spécialiser dans la direction d'une médiathèque d'une école d'architecture ?
Oui, je suis responsable de la médiathèque et de l'audiovisuel à l'ENSAP de Bordeaux depuis 2 ans et demi, mais je suis arrivée ici il y a bientôt 4 ans. Voici 25 ans en fait que je suis spécifiquement documentaliste dans les services du ministère de la Culture. C'est un métier que j'ai choisi après des études de lettres modernes, histoire de l'art jusqu'au doctorat en histoire de l'art contemporain. Mon tropisme étant plutôt la peinture contemporaine, je ne suis pas architecte. Et puis un diplôme spécialisé en documentation pour pouvoir vraiment exercer ce métier de médiateur en fait entre l'histoire de l'art et puis le public. Donc c'est vraiment un travail de médiation. Pourquoi l'école d'archi? Un petit peu par hasard, j'ai travaillé longuement pendant toutes ces années davantage dans les services patrimoniaux du ministère de la Culture, donc archéologie, monuments historiques, ce qui est aussi très utile ici. Et puis j'ai eu envie finalement de passer du passé justement vers le futur, de rejoindre des étudiants qui construisent le monde de demain, d'aller vers l'enseignement supérieur pour soutenir justement cet enseignement et puis bénéficier d'un grand vent de fraîcheur au contact de la jeunesse donc qui invente le monde de demain. Donc j'avais envie de ça et voilà, le poste à Bordeaux est arrivé et j'ai trouvé ça très, très motivant. Et je suis tout à fait ravie d'être ici et de retrouver un petit peu aussi la création contemporaine puisque c'était un peu le sujet de mon doctorat. Par amour de la recherche, j'ai essayé de poursuivre les études d'histoire de l'art jusqu'à le plus loin possible. Je pense que j'ai naturellement un profil de chercheuse. Je suis une grande...
La recherche, c'est ça que je cherchais.
J'ai donc une approche de l'architecture historienne de l'art. Et en arrivant ici, j'ai appris aussi que l'architecture, ce n'était pas finalement qu'un domaine de l'histoire de l'art. C'était tout autre chose. Et c'est donc tout aussi passionnant pour moi et pour mon équipe. Aucun n'est architecte parmi nous. On est tous plus ou moins artistes ou historiens de l'art. Si à replacer l'architecture dans un contexte plus vaste. Et c'est très intéressant puisque la médiathèque, en effet, elle balaye de ce fait toutes les connaissances, toute la connaissance humaine. Elle la classe en gros en domaine, hein, mais donc tout est concerné finalement par l'architecture. Donc ça, c'est fort intéressant. Et l'aspect histoire de l'art, l'aspect beau, est une facette, mais n'est pas tout. Donc c'est très enrichissant pour nous.
Très bien. Donc en tant que médiathèque, donc à la fois bibliothèque, je veux dire par là le contenu écrit, mais aussi le contenu audiovisuel. Donc on va plutôt aborder le contenu écrit d'abord. Et donc au niveau de cette médiathèque, quelle est l'utilisation des étudiants? Quelle est un petit peu la proportion au sein des promotions d'étudiants utilisant la médiathèque?
Nous avons de nombreux étudiants ici à Bordeaux avec cette double formation architecture et paysage. On a environ 1000 étudiants. Et sur ces 1000 étudiants, un tiers empruntent des livres régulièrement. Et une centaine d'étudiants viennent à la médiathèque par jour pour différents usages, des usages un petit peu ponctuels, mais aussi parfois pour s'installer, passer plus de temps. Et ils utilisent la médiathèque vraiment comme un lieu de travail. Donc c'est une médiathèque avec plusieurs usages, comme toute bibliothèque. On accueille par an environ 13 000 étudiants. Je le disais, environ 80 à 100 par jour, avec des périodes dans l'année beaucoup plus denses, comme le mois de mars et surtout le mois d'octobre et novembre, donc à la rentrée universitaire, où là, il y a une fréquentation beaucoup plus marquée des étudiants. Parce qu'il y a des projets à chaque fois, des projets de fin d'études. Et c'est aussi le début des cours, donc où les professeurs vont donner peut-être des notions, des bibliographies. Donc c'est vraiment ça permet d'enclencher finalement la recherche. Et en général, en fin de semestre, c'est le moment des évaluations, des rendus. Donc c'est davantage un moment d'écriture. On est beaucoup moins dans la recherche, dans l'accumulation de matériaux pour pouvoir écrire. Donc je pense qu'en effet, c'est des temps, des rythmes dans l'année qui s'expliquent par les études et l'évaluation. Donc un temps pour la recherche et un temps pour les rendus, l'écriture, pour redonner les savoirs acquis, quoi. Ils empruntent, pour ceux qui empruntent, une moyenne d'environ trois livres par personne.
Et quels sont les types d'ouvrages qui sont les plus consultés par les étudiants ?
Donc on a une médiathèque qui couvre, on a un fonds ancien, on va jusqu'à la période contemporaine, ils empruntent davantage de livres, on a d'autres supports, hein, mais des livres, un petit peu de revues aussi. Pour les livres, ils empruntent des choses d'ordre pratique qui vont vraiment soutenir, éclairer leur propre sujet. Donc les sujets sont multiples, donc des choses pratiques. On a également des fondamentaux en essai ou un peu en histoire de l'architecture. On a le Zumthor, Peter Zumthor, qui arrive en tête, vraiment en tête des emprunts. Donc c'est vraiment un fondamental. Donc ce sont ces fondamentaux qui sont aussi empruntés. Et puis on a un goût aussi pour la bande dessinée, par exemple, qui ressort. On sait également que les étudiants n'empruntent plus de DVD parce qu'ils n'ont plus les moyens de lire ce support sur leur ordinateur personnel, mais qui sont friands de documentaires ou de films en streaming. Donc on essaye aussi de développer cet usage-là. On a, nous, nos PFE, donc nos projets de fin d'études, qui, à Bordeaux, sont tous numérisés, ou de toute façon, maintenant, nativement, ils nous sont donnés sous forme numérique, et donc on les diffuse en ligne. Donc on a une part d'usage comme ça, moins visible, mais tout aussi important. On a une partie de bibliothèque, en fait, dématérialisée, qui est importante aussi, de fait.
Et donc, les étudiants, ils vont plutôt emprunter des livres donc, soit très théoriques, comme Peter Zumthor, ou alors des livres beaucoup plus pratiques. Donc, il y a deux types d'ouvrages qui sont empruntés. Donc, ça, c'est pour la partie où les étudiants prennent et ce que les étudiants donc, vous donnent. Donc, vous, par exemple, vous reprenez les PFE. Comment est-ce que vous mettez en valeur la diffusion plutôt des travaux? Donc, on va parler plutôt des travaux écrits des étudiants, donc à travers les PFE que vous mettez en libre accès.
Alors les PFE, les TPFE, pour les paysagistes, c'est une documentation très usitée, puisque la recherche, elle se fait sur ce qui a déjà été écrit par ses aînés, donc c'est important d'y avoir accès. Il y a quelques années, on garde tous les PFE, donc on allait les chercher en magasin, désormais ils sont tous numérisés, ils sont en ligne, donc on n'a plus ce travail de manutention à effectuer, l'étudiant peut consulter librement le PFE. On a des PFE très originaux qui mériteraient finalement une exposition ou un petit focus sur des thèmes très, très particuliers. Et puis aussi, on a des PFE, comme c'est à Bordeaux, c'est un exercice libre, c'est une particularité à Bordeaux, des PFE très, très proches d'un livre d'artiste avec des broderies, avec des collages originaux, donc avec des formats originaux. Et ça mériterait en effet une mise en valeur de l'objet physique.
Et donc Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, et j'imagine que vous êtes peut-être leur PFE.
Et oui, puisque nous avons donc ce rôle de conservation de la mémoire et qu'on a obligation de garder les PFE de nos anciens étudiants, nous avons encore le format papier, donc les PFE du duo Lacaton et Vassal, que l'on garde précieusement. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà, donc à la fin des années 70, je crois que c'est 1979, le thème de la verrière et ses préoccupations écologiques étaient déjà présentes dans ce PFE, qui est tout à fait charmant, puisque c'était avant l'outil informatique. Donc on a donc des dessins à la main, des photos développées presque manuellement, puis une écriture tapuscrite. Mais on a déjà cette préoccupation donc, de la verrière, de la serre et donc quelques bribes d'écologie. Ce qui veut dire que, moi je pense en effet que les études d'architecture servent au bout de ces 5 années à trouver qui on est, à trouver son style, et qu'en effet on peut trouver son style et aller loin et faire du bien à la société avec cette trouvaille-là. Et pour l'instant, notre valorisation, elle est intellectuelle, c'est-à-dire qu'on diffuse le plus largement possible cette production intellectuelle en ligne, sur le catalogue Archires.
Et donc le catalogue Archires, c'est aussi une manière de venir attirer les étudiants pour qu'ils viennent ici, et de manière dématérialisée aussi, où ils peuvent, de chez eux, venir consulter la médiathèque sans forcément venir s'y rendre. Donc c'est un moyen aussi un peu plus indirect de venir toucher les étudiants.
Tout à fait, oui. C'est notre outil de travail. Et c'est en effet la vitrine de la médiathèque que vous pouvez consulter à toute heure depuis chez vous, sur votre téléphone. Donc c'est une médiathèque qui va chez vous, finalement, qui essaye de vous accompagner sur votre téléphone et qui essaye également par ce biais de vous fournir, de fournir aux étudiants des contenus en ligne, donc par les ressources numériques, comme je viens de l'évoquer, les PFE en ligne, mais aussi par des ressources audiovisuelles ou des e-books aussi, des livres en PDF ou en streaming qu'on peut consulter par ce biais-là, par Archires. Donc le rôle de médiateur, finalement, est aussi soutenu par le catalogue Archires.
Très bien. Et donc si Archires permet un peu de venir relier et d'avoir une forme de médiathèque à la maison, un petit peu, est-ce que vous pensez qu'elle est une question très générale, le rapport, au final, à la lecture, d'abord, des étudiants en architecture?
On est une bibliothèque grand public, mais qui accueille plutôt un public universitaire, un public de chercheurs. On a également des enseignants qui l'utilisent, des enseignants-chercheurs, des doctorants, et puis du grand public, des professeurs d'université, des spécialistes du patrimoine bordelais. Donc on essaye d'être une bibliothèque de bon niveau. Elle est la plus grande sur la région de Nouvelle-Aquitaine. C'est la bibliothèque de référence en architecture publique sur le...
Oui.
sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine, avec un fonds de 30 000 documents. Donc elle est un petit peu pour ce public-là, pour tout usage. Et comme toute médiathèque, voilà, on peut, comme le rappelait Daniel Pénac dans ses droits des lecteurs, on a le droit de ne pas lire. On a le droit également d'emprunter et de ne pas lire le livre, mais de l'avoir près de soi, d'être assuré par la possession de cet objet. Mais surtout, le livre ici, je dis livre, mais ça peut être le document, donc permet d'étayer, bien sûr, la pensée. De replacer, ou plutôt d'abord de documenter son projet, c'est-à-dire de le définir, de l'illustrer aussi, de replacer sa propre pensée dans une histoire de l'architecture. Et puis finalement, je trouve ça très important, parce que je l'ai fait pour moi-même, c'est qui suis-je ? Qui suis-je pour les étudiants ? Qui suis-je comme futur architecte ? Quel est mon style ? De qui je peux m'inspirer ? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une citation pour nourrir, illustrer mon mémoire ou mon PFE ? Donc la lecture de ces ouvrages, la prise en compte de cette pensée là qui est présente, la pensée de ses prédécesseurs qui est présente dans la médiathèque, elle est nécessaire pour que l'étudiant puisse s'inscrire dans l'histoire de la pensée architecturale et surtout se découvrir, se confronter avec d'autres architectes et puis trouver, à mon sens, son style et puis savoir qui il est en mémoire. Et un autre usage aussi de l'écrit que l'on constate, puisqu'on est dans la culture visuelle, que la main est le prolongement aussi de la pensée, que le crayon n'est jamais loin pour croquer, dessiner, et que c'est un exercice demandé et apprécié, qui fait partie du projet architectural aussi. On a des demandes de modèles, finalement. Comment représenter notamment le végétal. Donc on essaye de développer en ce sens un petit fond de bande dessinée spécialisée... ville, architecture, paysage, pour sensibiliser finalement la représentation graphique. Qu'est-ce qui est possible en graphisme ? C'est comme l'écriture, c'est comme la pensée, tout est possible. Et à soi aussi de trouver son style graphique finalement, ou son rapport au dessin, au graphine, au fait de graver, de s'inscrire dans un support. Voilà, c'est ces documents, que ce soit scripturaux ou graphiques, ils permettent donc à mon sens, et c'est important, de se trouver et donc de s'inscrire d'une manière respectueuse, académique, dans une histoire aussi.
D'accord. Et donc, selon vous, peut-être que la bande dessinée, qui fait partie des ouvrages les plus consultés, pourrait être un peu un intermédiaire entre le tout dessin et tout graphique et le tout écrit. Et qu'en fait, au final, pour une école d'architecture, pour des étudiants en école d'architecture, ce mélange un peu entre les deux marche.
Oui, on a remarqué que les étudiants empruntaient des BD et nous demandaient effectivement des modèles de représentation graphique. Donc on a mis en exergue spécifiquement la BD en la sortant un petit peu des rayons, en lui dédiant un petit espace comme on pouvait à la médiathèque. Et on a vu en effet que les étudiants s'intéressaient beaucoup à la BD et qu'il y avait des étudiants extrêmement connaisseurs en BD. Et puis qu'il y avait également des enseignants, connaisseurs en BD, et la magie de la médiathèque a fait que j'ai mis en relation ces enseignants intéressés avec cet enseignant. Et il s'est créé un petit club de lecture formel entre ces étudiants et cet enseignant, et qui a donné lieu à des sorties dans des librairies spécialisées à Bordeaux. Donc il y a eu une petite émulation sur spécifiquement le support BD, et donc une rencontre entre étudiants en archi et paysage et cet enseignant en architecture. Donc ça, c'est très, très appréciable. La médiathèque a vraiment joué son rôle de médiateur, a permis cette petite magie, ce petit groupe de lecture. Et je pense que c'est une bonne expérience à réitérer. Oui. Puis la BD, il y a quelque chose de détendu, de non académique. On étudiait quand même peu, pour ceux qui sortent du lycée, on étudiait peu la BD au lycée. On était quand même dans la littérature académique, qui parfois a peut-être refroidi aussi certains étudiants par rapport aux bibliothèques, avec ces lectures imposées, non choisies. Ici, on essaye d'ouvrir le maximum pour que la lecture soit aussi un moment de détente et qu'elle soit rapide. La BD aussi, ça peut être quelque chose de rapide, de ponctuel. Donc, ça permet peut-être d'entrer parfois dans une forme de lecture par une lecture comme ça, très liée au graphisme, finalement.
Et donc au niveau de cette une forme de composition d'une bibliothèque mentale un petit peu d'un étudiant, donc il y aurait par exemple la BD dedans, quel est votre rôle selon vous?
Donc on a un rôle d'universalisme, on doit, puis l'architecture l'appelle, on doit vraiment couvrir tous les domaines de connaissances. De la philosophie au très pratique, aux matériaux, on doit s'intéresser à tout. Donc on essaye de s'intéresser à tout. Et puis on a aussi trois laboratoires à l'école, hein, sociologie, paysage et construction, pour faire vite. Mais donc on doit spécifiquement aussi s'intéresser donc, à la sociologie, à l'urbanisme, aux matériaux et puis au paysage, bien sûr, puisque c'est une composante de l'école. Donc on se doit de s'intéresser à tous les domaines de la connaissance. On essaye aussi de tenir vraiment, de se coller à l'actualité, donc d'acheter des livres en conséquence pour ouvrir le débat et puis être au courant de ce qui se passe aux nouveaux concepts et puis aux problématiques actuelles avec bien sûr le climat, les matériaux biosourcés, la réhabilitation du patrimoine, la démocratie collaborative, l'habitat d'urgence, enfin, tout type de préoccupations très actuelles auxquelles on essaye de fournir de la documentation parce que on ne sait pas tout pour poser une réflexion.
Oui, et qui 30 ans avant, peut-être exactement le même métier n'aurait pas fait que vous n'auriez pas commandé ce type d'ouvrage.
Tout à fait, tout à fait. On voit d'ailleurs un petit peu dans les rayons l'évolution de la pensée finalement. Donc c'est ça aussi qui est intéressant.
Et l'évolution de la pensée, mais aussi l'évolution peut-être de l'utilisation des étudiants. Est-ce que vous observez ou pas une utilisation de la lecture, et notamment par exemple avec l'arrivée de l'informatique, puisqu'il y a à peine 20 ans, il y avait à peine des ordinateurs. Aujourd'hui, c'est indispensable dans les écoles d'architecture, dans les études d'architecture.
Et puis, la crise Covid aussi, qui a mis un arrêt un petit peu à la fréquentation des bibliothèques. Au contraire, elle nous a montré que finalement, emprunter un livre, c'était quelque chose d'important. L'objet livre était encore important. Et puis, la crise Covid n'a pas mis un frein du tout à la fréquentation de la médiathèque. C'est-à-dire qu'on retrouve notre fréquentation d'avant, en fait. Donc, on voit que le rapport au livre, qui est peut-être rassurant, est toujours présent. Donc, on a notre raison d'être. Je le disais tout à l'heure, on a numérisé beaucoup de nos PFE. Donc, l'informatique a permis de gagner de la place en médiathèque et de rendre beaucoup plus fluide aussi la diffusion des ressources. Donc la numérisation notamment, elle permet d'accéder plus facilement aux documents. C'est le cas également pour les cartes. Dans toutes les écoles d'archi, les cartes étaient un document très consulté il y a quelques années. Maintenant, les cartes IGN, les données sont en ligne. Donc, c'est un autre usage au rapport cartographique et nous à nos documents. Donc, on peut faire un petit peu varier notre métier, faire autre chose.
Donc, l'informatique, au final, a presque, selon vous, était plutôt positif pour votre travail?
Elle est très positive, oui. Elle permet vraiment ce travail qui est fondamental en bibliothèque, ce travail de lien entre l'usager et le fond, et le document. Elle permet la fluidité et la vitesse, la mise à disposition. Donc c'est vraiment très positif.
Pour finir, le lien avec plutôt, on parlait des étudiants, mais aussi avec l'équipe enseignante. Donc étant la plus grande bibliothèque spécialisée en architecture de la région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous êtes sollicité par les équipes enseignantes? Quel est votre lien avec les enseignants?
Oui, on essaye de travailler vraiment de manière permanente avec les enseignants. On fait appel à eux pour les suggestions d'acquisition, de manière toujours à ce que le fonds documentaire soit vraiment un écho à leurs préoccupations, aux préoccupations des enseignants. Notre rôle, c'est de soutenir aussi l'enseignement par le biais des enseignants, bien sûr, et des enseignants-chercheurs et des doctorants. Donc on leur demande tout simplement de nous aider à choisir finalement les livres qui sont nécessaires d'être acquis à la médiathèque. Donc pour ça, c'est très utile. On essaye aussi de coller un petit peu à l'actualité, notamment aux conférences. Quand il y a des conférences ou l'accueil d'un auteur, on essaye de valoriser ce qu'on possède de cet auteur à la médiathèque. Donc c'est stimulant aussi pour nous. Ça permet d'être toujours resté d'être stimulé intellectuellement, de garder contact avec l'actualité et de mettre en place une synergie finalement entre ce qui se passe dans les enseignements, et il travaille routinier, qui ne l'est pas, mais habituel de la médiathèque.
Et de venir donc lier, peut-être à travers les enseignants, vous pouvez peut-être faire venir des étudiants en fait.
Aussi, tout à fait, oui, oui. Il y a vraiment cet aspect synergie. On est vraiment au soutien de la pédagogie. On est là pour aider, pour soutenir, pour faire des recherches, pour orienter, puisqu'on a quand même une expertise aussi dans la conservation de la mémoire, finalement. On sait qu'on est très sensible à la conservation de la mémoire. Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Tout ce savoir construit, diffusé, où est-il? Donc on a ce réflexe-là, on essaie d'y travailler, donc de conserver la mémoire de ce qui est produit à l'école. Ça, j'y tiens beaucoup, c'est important. La conserver d'abord et la valoriser ensuite ou en même temps. Mais pensez à cet aspect, pour moi, production de savoir, qui est en train de se faire et qui est vraiment d'une richesse fabuleuse, qu'il serait très dommage de perdre. Donc pour ça, l'outil vidéo notamment est très utile pour capter la pensée en train de se faire.
Sur ce travail de mémoire aussi, puisque je pense que vous gardez les archives des Sud-Ouest notamment. Donc il y a à la fois le côté très international, donc Peter Zumthor d'abord, mais aussi le côté très local avec ce travail, avec l'architecture très locale au final.
Exactement, oui. On conserve des articles de Sud-Ouest, puisqu'on sait que il y a quand même une grande majorité des travaux d'étudiants qui vont porter sur le territoire local, le territoire régional, et qu'ils ont pour cela, ils ont besoin de contextualiser leur sujet, de l'historiciser, parfois de trouver ou d'écrire la genèse du projet, un projet local autour de Bordeaux, ou sur le bassin, ou à Soulac. On aura besoin finalement de cette presse locale, comme on avait besoin au début du XXe des sociétés savantes qui, avec leurs amateurs, étudiaient fortement le terrain. Donc on a besoin de cette ressource locale, parce que c'est une mine et c'est parfois un début d'écriture du projet.
Mais très bien. Merci bien pour avoir répondu à mes questions. Et dernière petite question, si vous aviez un ouvrage écrit, donc on va rester sur de l'écrit, donc ça peut être aussi bien de la BD, un livre, un recueil de poèmes, un article, n'importe, qui serait à conseiller, que serait-il?
Alors je parle de ma propre expérience, moi qui ne suis pas architecte, quand je suis là dans cette grande bibliothèque dédiée à l'architecture, par quoi je commence?
Donc
manière très humble, de quoi j'ai envie? Donc j'ai envie en fait d'un petit livre simple. Peut-être sans images, écrit de manière limpide et percutante, sans forcément de poésie, après tout, quelque chose de simple et qui va beaucoup m'ouvrir l'esprit. Donc j'ai pas tout lu, loin de là. Je signalerai par exemple à l'étudiant débutant les 10 clés pour s'ouvrir à l'architecture de Martine Bouchier chez Archibooks. Voilà, elle pose les 10 fondamentaux finalement pour comprendre ce que c'est que l'architecture. Surtout quand on, comme moi, on sait que l'architecture n'est pas qu'une facette de l'histoire de l'art. Hein. Donc, c'est aussi le rapport à l'espace, c'est apprendre à regarder le vide. Donc ce petit livre est très très, très intéressant. J'aime beaucoup la vulgarisation scientifique. Et là, je suis en train de lire un livre de Paul Arden qui s'appelle « Le boost et le frein ». C'est quelqu'un qui est aussi critique d'art, donc c'est quelqu'un que j'ai déjà côtoyé dans mes études d'art contemporain. Donc je retrouve là sa pensée dédiée à l'architecture, et c'est également pour moi très percutant, et ça donne vraiment une vision simple et claire de ce qu'est l'architecture dans le monde aujourd'hui. Donc pour un débutant, je trouve ça vraiment fort intéressant.
D'accord. Eh bien, merci bien. Du coup, il sera reposté. Merci bien.
Merci beaucoup.
Le boost et le frein de Paul Arden, 4e de couverture. L'architecture et l'urbanisme contemporain sont à l'image des fractures qu'engendre le néolibéralisme, système économique inégalitaire aux ambitions mondialistes qu'imposent à l'échelle planétaire les années 1980, puis le tournant du XXIe siècle. Une débauche de bâtiments somptuaires partout sort de terre, battant des records de luxe, de hauteur et d'affichage publicitaire. L'architecture de misère, celle des pauvres, des déplacés économiques et climatiques, au même moment, prolifère. Sur le plan humain, la tension se fait extrême entre, d'un côté, métropole engagée dans le renouveau et le branding, et de l'autre, masse de population mal logée, rejetés par l'étalement urbain en périphérie des villes ou condamnés au bidonville et à la tente de survie. Maximalisme d'un bord, celui des vainqueurs du système. Précarité de l'autre bord. contrebuter l'indignité, rétablir plus d'équilibre est à l'ordre du jour. Pour les partisans du nouveau monde, l'architecture du futur sera éthique et écologique ou ne mérite pas d'être. Historiquement, le premier quart du XXIe siècle constitue l'épisode de bascule le plus important qu'a enregistré l'humanité au registre du bâtir. Pour certains, il faut se tenir au boost, à la poussée intense dans le sillage de l'esprit moderne. Pour d'autres, il est temps au contraire d'appuyer sur le frein et de ménager une planète Terre aux ressources raréfiées. Ceci, tandis que quelques-uns déjà boudent le principe d'un destin commun, éco-villagistes et zadistes vivant de frugalité, cisteaders embarqués sur des villes flottantes et autres survivalistes, tous prêts pour la sécession.
Campus Bordeaux 88,1. Campus Bordeaux 88,1.